Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Odile Launay.
Bonjour.
Brigitte Autran.
Bonjour.
Vous êtes l'une et l'autre, pour l'une Brigitte Autran, professeure d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes membres toutes les deux du comité technique des vaccinations. Vous, Brigitte Autran, vous avez développé un consortium de recherche vaccinale auprès de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé et de l'Institut de microbiologie et de maladies infectieuses. Vous, Madame le professeur Launay, vous êtes aussi professeur des universités en maladies infectieuses à l'Université Paris-Descartes. Vous coordonnez le Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur. Vous coordonnez également le Réseau national de recherche clinique en vaccinologie. Donc, ma première question que je vous pose, Madame Launay, porte sur la vaccination obligatoire. La France est, avec l'Italie, je crois, le seul pays d'Europe à rendre obligatoire la vaccination. Cela vous semble-t-il à la fois légitime ou efficace? Parce que, justement, certains pays d'Europe ne rendent pas cette pratique obligatoire et peut-être sont-ils mieux couverts? Est-ce vrai? Comment expliquer ce paradoxe si ce paradoxe a lieu?
Alors, les obligations vaccinales, en fait, sont des obligations historiques. En fait, au début de l'arrivée des vaccinations, en raison de la gravité des épidémies, de l'importance des épidémies, les gouvernements ont voulu rendre les vaccinations obligatoires, à la fois pour protéger la population, mais aussi pour rendre accessibles les vaccins au plus grand nombre. Donc ces vaccins obligatoires, le premier a été la variole en 1902, et puis ensuite la diphtérie, le tétanos, la polio, puis le BCG jusqu'en 1964. Et depuis 1964, en fait, cette liste des obligations vaccinales n'a pas été revue. Et tous les vaccins qui ont été implémentés depuis cette période-là ne sont plus des vaccins obligatoires. Ce sont des vaccins qui sont, entre guillemets, simplement recommandés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué, en tous les cas pour l'esprit du public, de comprendre pourquoi on a des vaccins qui restent obligatoires pour des maladies qu'on ne voit plus, qui ont quasiment disparu, et d'autres qui pourraient être simplement recommandé, donc un petit peu moins important peut-être que les autres. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion en France pour savoir s'il faut continuer à garder ces obligations vaccinales, qui assurent quand même une couverture vaccinale correcte pour ces vaccins-là, ou s'il faut supprimer ces obligations pour proposer des vaccins fortement recommandés. Mais c'est une vraie question et le Haut Conseil de la Santé publique a posé la question sur la table pour savoir aujourd'hui ce qu'il fallait faire.
Alors, comment peut-on expliquer que les campagnes de vaccination qu'on a menées en France, je pense particulièrement à celles menées par Philippe d'Oustoblasi, et aussi, il s'agissait de l'hépatite B, et également celles menées du temps de Roselyne Bachelot autour du vaccin contre la grippe H1N1, comment justement ces campagnes ont contribué à diminuer la confiance des Français en la vaccination plutôt que l'inverse?
Je crois qu'il faut dire que depuis le début de la vaccination, peut-être en partie en raison des obligations, mais les vaccins ont toujours colporté en fait des bruits autour des risques, autour des inconvénients de la vaccination. Et en France, c'est vrai que la vaccination hépatite B nous a beaucoup desservis, puisqu'en fait, en suivant les recommandations de l'OMS, d'implémenter de façon très large cette vaccination, en particulier chez les petits-enfants, la France a lancé une très grande campagne de vaccination et la campagne a dépassé sa cible, avec un nombre très très important de personnes qui ont été vaccinées, en particulier des personnes jeunes, dans des populations, sur des terrains sur lesquels on voit apparaître des maladies auto-immunes. C'est l'âge auquel on peut présenter une maladie auto-immune, en particulier chez les personnels de santé, en particulier les infirmières qui se sont fait vacciner de façon à un âge où on a des poussées de ces maladies-là. Et très rapidement est arrivée la question, est-ce que ça ne serait pas le vaccin qui serait responsable de ces maladies auto-immunes? Et j'allais dire, en tous les cas, c'est ma façon de voir les choses, les infirmières, depuis cette vaccination hépatite B, sont très réticentes par rapport à la vaccination et colportent et font courir des bruits vis-à-vis du vaccin qui sont très, très inquiétants et pas du tout en faveur de la vaccination.
Négatif.
Très négatif vis-à-vis de la vaccination. Et je suis persuadée que les infirmières et les soignants, de façon générale, ont un rôle très important à jouer dans l'information autour du vaccin et donc la conviction du public de se faire vacciner. Alors ensuite, H1N1, ça a été un tout petit peu différent. H1N1, on est parti sur l'idée d'une pandémie comme en 1918, où il y avait eu des millions de morts.
La grippe espagnole.
Donc, les vaccins sont sous la responsabilité du ministre de la Santé, hein, ce qui explique que c'était à l'époque Madame Bachelot. Et Madame Bachelot a pris tout ce qu'elle avait, toutes les mesures possibles pour que la campagne de vaccination et que la grippe, si elle était aussi importante qu'en 1918, puisse se passer le mieux possible. Ce qui fait que cette campagne de vaccination a été mise en place sans les généralistes, pour lesquels on pensait qu'ils allaient devoir s'occuper des malades. Ils ont été un peu exclus de cette campagne de vaccination, avec une espèce de machine de guerre pour pouvoir vacciner le grand nombre dans des gymnases. Peut-être qu'on peut un tout petit peu regretter qu'entre le moment où on a lancé ce plan de grippe pandémique, de vaccination, et le moment où on a commencé la campagne de vaccination, il s'est quand même passé plus de 6 mois. Et on savait au moment où on a commencé la campagne que finalement, le risque de cette grippe n'était pas aussi effrayant que ce qu'on pensait. Mais les choses étaient installées et finalement, les soignants et les généralistes n'ont pas été impliqués.
On en est resté à
une organisation de plan de bataille. On n'a pas pu s'adapter à une situation qui finalement n'était pas une situation de guerre. Donc finalement, les gens qui, pendant l'été, avaient dit, ou avant l'été, avaient dit « moi, je me ferai vacciner, je veux absolument me vacciner parce qu'il y a beaucoup de décès », et bien après, plus ça arrivait, plus ils disaient « mais moi, j'ai peur de ce vaccin, finalement, cette grippe, elle n'a pas l'air si grave, et puis ce vaccin, il y a un adjuvant, donc est-ce que vraiment c'est à risque ?» Et finalement, une seconde fois, j'allais dire, la mise en avant de la vaccination par nos ministres, pour bien faire, finalement, a été plutôt défavorable à la vaccination.
Très bien. Brigitte Autran.
Donc, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en particulier sur la vaccination anti-HBV, effectivement, la stratégie de communication et de l'organisation de la recommandation ministérielle n'a probablement pas été appropriée et a déclenché des réactions de rejet. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est que ces réactions de rejet presque viscérales contre la vaccination anti-HBV sur les raisons qu'a indiqué Odile Launay, sont une caractéristique française. Et j'ai fait partie pendant 6 ans du comité de sécurité mondiale de l'OMS et aucun autre pays du monde n'a rapporté ces mêmes réticences vis-à-vis du vaccin anti-HBV et n'a rapporté non plus d'événements secondaires de type poussée de sclérose en plaques au décours de vaccination contre l'hépatite B. Donc ça reste un problème extrêmement français. La Société française de neurologie a reconnu l'absence totale de lien entre la vaccination anti-hépatite et le déclenchement de poussée de sclérose en plaques. Et donc, c'est aussi un élément qui est très rationnel et qu'il faut faire passer dans la communauté,
bien sûr,
dans le grand public, pour les convaincre que, bien sûr, il y a eu des problèmes de communication, il y a eu sans doute des excès dans un sens ou dans un autre, mais c'est un problème français. Et si c'est un problème français, alors cela veut dire que ça n'est pas le problème de du vaccin en lui-même, puisque le vaccin, c'est le même qu'on utilise partout dans le monde. Donc c'est bien un problème de communication et passage de l'information.
D'accord. Alors, ça me permet de vous poser, Brigitte Autran, la question suivante. C'est qu'est-ce qu'il faut faire de l'information, de la communication autour des effets néfastes des adjuvants ? Ou bien, il faut aussi les reconnaître. Et est-ce qu'on est vraiment au clair sur les effets des adjuvants et l'ampleur de leurs effets ?
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle les effets néfastes des adjuvants ? Les adjuvants à base de sel d'aluminium, qui sont incriminés par certains, sont utilisés dans la grande majorité des vaccins depuis le milieu des années 20 du XXe siècle, c'est-à-dire depuis près de 100 ans. Le monde entier reçoit, toutes les générations d'enfants reçoivent ce type de vaccin. Et les événements indésirables qui ont été rapportés à ces vaccins le sont là aussi par une poignée de gens dans certains pays et à nouveau en particulier la France, mais pas dans les autres pays. Et il n'est pas possible qu'au cours de 100 ans de vaccination de la quasi-totalité des enfants du monde avec des vaccins ayant un adjuvant à base de sel d'aluminium, on soit passé à côté de complications graves des adjuvants à sel d'aluminium. Donc il faut tout de même remettre les choses à leur place. Est-ce que maintenant, il est possible que sur certains terrains génétiques, certaines populations particulièrement fragiles, qui auraient reçu trop d'injections de vaccins, il y ait pu y avoir certaines complications? Cela reste à élucider. Mais j'aimerais tout de même vraiment mettre l'accent sur l'extrême rareté de ces événements indésirables qui ne sont d'ailleurs pas complètement prouvés comme étant dus au vaccin, mais qui sont peut-être simplement associés à la présence du vaccin.
D'accord, c'est clair. Brigitte Autran, je voulais aussi vous demander ce que vous pensez, parce que ça me paraît important pour les auditeurs, de l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette dénomination, cette procédure consiste à comparer l'intérêt médical d'un acte, d'une pratique, d'un médicament, d'une organisation innovante et les coûts qu'ils engendrent. Alors, justement, ma question porte à la fois sur la vaccination et peut-être sur les autres domaines de la santé que cette procédure pourrait...
Oui. Alors, d'abord, moi, personnellement, je trouve, et j'imagine que Odile se prononcera également, c'est une excellente chose. Mais il faut aussi remettre les choses à leur place et dans le calendrier d'évaluation d'un vaccin. Tout d'abord, un vaccin est évalué sur sa capacité d'induire une réponse immunitaire protectrice, donc de protéger contre une maladie, tout en garantissant une sécurité médicale. Donc, on vérifie d'abord et avant tout l'absence d'effets secondaires et la capacité à protéger contre une maladie infectieuse qu'on a voulu cibler avec ce vaccin. Une fois que ceci est démontré, on pose la question, les industriels posent la question aux agences réglementaires d'enregistrer ce vaccin, c'est-à-dire de donner l'autorisation de commercialisation. Et une fois que ceci est obtenu, si c'est obtenu, chaque pays se prononce sur l'intérêt dans la politique de santé d'introduire ce vaccin. Et bien évidemment, la décision est faite classiquement sur le rapport entre les bénéfices médicaux et les risques liés au vaccin. Ceci fait que pour tous les vaccins qui sont acceptés, recommandés, il est considéré que les bénéfices médicaux attendus sont supérieurs aux risques éventuels liés au vaccin. Mais depuis quelques années, on introduit une nouvelle cotation qui est: quel est le bénéfice médical attendu en termes de retombées économiques d'épargne de coûts de santé par rapport aux coûts engendrés par la pratique de la vaccination. Ceci, pour moi, est un élément extrêmement intéressant. Et par exemple, un excellent vaccin dirigé contre la gastro-entérite, qui touche essentiellement les petits-enfants, s'est révélé très intéressant sur le plan médical, mais pas intéressant sur le plan économique en France, alors qu'il peut être très intéressant sur le plan économique dans des pays où les gastro-entérites sont extrêmement fréquentes et extrêmement graves.
C'est très intéressant, mais alors
ça... C'est un nouveau système d'évaluation qui est extrêmement utile à la société et qui est maintenant utilisé pour tous les nouveaux vaccins.
Et ma question portait sur aussi l'extension possible à d'autres choses que les vaccins de cette procédure.
Je crois que, effectivement, on commence en France par adapter cette évaluation médico-économique et de la prendre en compte pour les recommandations vaccinales. Mais il faut savoir que c'est le cas pour bien d'autres médicaments dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni, où dans la mesure où les budgets de santé sont de plus en plus contraints et les médicaments sont de plus en plus coûteux, les États sont finalement obligés de faire des choix et de prioriser les médicaments qui vont être remboursés. Et là, en l'occurrence, les vaccins qui paraissent les plus intéressants, comme l'a dit Brigitte Autran, en termes de rapport coût, ce que ça va coûter à l'État pour le budget de santé et les bénéfices que ça va permettre d'économiser en termes de dépenses de santé. Alors, on n'est plus beaucoup dans des vaccins qui préviennent la mortalité. On est plus maintenant dans des vaccins qui préviennent la morbidité, l'hospitalisation, les complications. Donc, est-ce que le coût d'une vaccination d'une population, à l'échelle d'une population, d'un pays, finalement, vont être remboursés ou en tous les cas vont être équilibrés par les bénéfices qui vont engendrer en termes de prévention des hospitalisations. On est obligé aujourd'hui de pouvoir de prendre en compte ces données-là pour être plus à même de faire des recommandations en accord avec les budgets de santé.
Bon, alors j'ai bien vu, Brigitte Autran et Odile Launay, à quel point vous pouviez éclaircir cette question des vaccins et de la vaccination et à quel point, en fait, vous abordiez aussi cette question en rationaliste, l'une et l'autre. Oui, on peut dire cela ?
Oui, on peut tout à fait le dire. Si vous voulez, ce qui est vraiment passionnant dans le domaine des vaccins, c'est que les vaccins sont une invention d'une époque qui date du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, où on avait observé des effets protecteurs, mais on ne savait pas les expliquer. Aujourd'hui, nous avons la capacité de mieux expliquer les effets protecteurs, donc d'introduire de la rationalité dans une pratique médicale qui, jusqu'à maintenant, était très pragmatique. Le progrès des connaissances nous aidera sans doute à encore mieux comprendre les éventuels effets secondaires et mieux analyser les bénéfices-risques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est probablement la raison pour laquelle la vaccination génère tant de réactions irrationnelles, c'est qu'au départ, elle repose sur une attitude et des stratégies, des interventions qui n'avaient pas de base scientifique, qu'on ne pouvait pas expliquer.
C'est sur cet irrationalisme combattu que nous allons clore cette émission. Odile Launay, Brigitte Autran, je vous remercie. Je remercie Dany Journeau et Élise Leu qui ont rendu possible cette émission. Je remercie également Gilles Duhamel qui m'a conseillé scientifiquement pour cette émission. Je renvoie les auditeurs de France Culture au site de l'Union Rationaliste et je vous souhaite un excellent début d'année 2015 et je vous dis au mois prochain.